de Sophie, comtesse de Ségur. Extrait.
Ma bonne, viens jour Sophie.
En accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse.
Le papa m'a renvoyé du Paris.
Je crois que c'est une poupée de cire.
La boîte.
Partie 1 sur 2. Chapitre 1. La poupée de cire.
Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une.
Où est la caisse ?
Dans l'antichambre, venez vite, ma bonne, je vous en supplie.
La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. « Prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons.
« Cassez-les, arrachez-les, vite ma bonne, que j'ai ma poupée !»
La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple, une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de 20 fois et, la tenant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans et qui était en visite chez Sophie, accourut au cri de joie qu'elle poussait.
« Paul, regarde quelle jolie poupée m'a envoyée papa !»
s'écria Sophie.
« Donne-la-moi, que je la vois mieux. »«
Non, tu la casserais. »«
Je t'assure que j'y prendrai bien garde. Je te la rendrai tout de suite. »
Sophie donna la poupée à son cousin, en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la tête.
« Pourquoi secoues-tu la tête ?»«
Parce que cette poupée n'est pas solide, » dit Paul. « Je crains que tu ne la casses. »«
Oh, sois tranquille, je vais la soigner tant que je ne la casserai jamais !»
Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous pour leur faire voir ma jolie poupée.
« Elles te la casseront, » dit Paul.
« Non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée. »
Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle.
« Peut-être, » dit-elle, « a-t-elle froid ?» « Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et que je la tiens bien chaudement. »
Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?» lui demanda sa maman.
« Je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. »
« Prends garde, tu vas la faire fondre. »
« Oh non, maman, il n'y a pas de danger, elle est dure comme du bois. »
« Mais la chaleur la rendra molle, il lui arrivera quelque malheur, je t'en préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'était ses amis qui arrivaient. Elle courut au devant d'elle. Paul les avait attendus sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant tout à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée,
Elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan, maman de Sophie. Elles allèrent ensuite à Sophie qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné.
« La poupée est aveugle, elle n'a pas d'yeux, » dit Madeleine.
« Quel dommage, comme elle est jolie, » dit Camille.
« Mais comment est-elle devenue aveugle? Elle devait avoir des yeux, » ajouta Madeleine.
Sophie ne disait rien. Elle regardait la poupée et pleurait. « Je t'avais dit, Sophie, » dit Madame de Réan, « qu'il arrivera un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. »
« C'est impossible, maman. Ils n'y sont plus. »
Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans la tête.
« Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, » dit Madame de Réan. « La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparerai mes instruments. »
Aussitôt, Paul et les trois petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine. Les yeux qui étaient dans la tête tombèrent sur ses genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être et, pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête et sur la place où étaient les yeux de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendit quelques instants que la cire fût refroidie et puis elle recousit le corps à la tête. Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa 10 fois.
« Merci, ma chère maman, » disait-elle. « Merci, une autre fois je vous écouterai, bien sûr. »
On rhabilla bien vite la poupée. On l'assit sur un petit fauteuil et on l'emmena promener en triomphe en chantant.
« Vive maman, de baisers je la mange. Vive maman, elle est notre bon ange. »
La poupée vécut très longtemps, bien soignée, bien aimée. Mais petit à petit, elle perdit ses charmes. Voici comment. Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées puisqu'on lavait les enfants. Elle prit de l'eau, une éponge, du savon et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était malade et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes. Elle les passa au fer chaud pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée, qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Un autre jour encore, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder, mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire. Et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. Une autre fois, Sophie songea qu'un bain de pied serait très utile à sa poupée puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, y plongea les pieds de la poupée et, Quand elle la retira, les pieds s'étaient fondus et étaient dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir, mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre des pierres et se cassa en 100 morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis à venir enterrer sa poupée. Chapitre 2 L'enterrement. Camille et Madeleine arrivèrent un matin pour l'enterrement de la poupée. Elles étaient enchantées. Sophie et Paul n'étaient pas moins heureux.
« Venez vite, mes amis, nous vous attendons pour faire le cercueil de la poupée. »«
Mais dans quoi la mettrons-nous ? » dit Camille.
« J'ai une vieille boîte à joujoux, » dit Sophie. « Ma bonne l'a recouverte de percale rose. C'est très joli. Venez voir !»
Les petites coururent chez Madame de Réan, où la bonne finissait l'oreiller et le matelas qu'on devait mettre dans la boîte. Les enfants admirèrent ce charmant cercueil. Elles y mirent la poupée, et pour qu'on ne vît pas la tête brisée, les pieds fondus et le bras cassé, elles la recouvrirent avec un petit couvre-pied de taffetas rose. On plaça la boîte sur un brancard que la maman leur avait fait faire. Elles voulaient toutes le porter. C'était pourtant impossible, puisqu'il n'y avait place que pour deux. Après qu'ils se furent un peu poussés, disputés, on décida que Sophie et Paul, les deux plus petits, porteraient le brancard, et que Camille et Madeleine marcheraient l'une derrière, l'autre devant, portant un panier de fleurs et de feuilles qu'on devait jeter sur la tombe. Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on posa par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent promptement tout autour et y plantèrent 2 lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leurs petits arrosoirs pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires, parce qu'on s'arrosait les jambes, qu'on se poursuivait et se sauvait en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée, sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête, et que personne ne l'aimait ni la regrettait. La journée se termina gaiement. Et lorsque Camille et Madeleine s'en allèrent, elles demandèrent à Paul et à Sophie de casser une autre poupée pour pouvoir recommencer un enterrement aussi amusant.
Thank you.
Chapitre 3. La chaux. La petite Sophie n'était pas obéissante. Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour, où les maçons bâtissaient une maison pour les poules, les paons et les pintades. Sophie aimait beaucoup à regarder travailler les maçons. Quand sa maman y allait, elle l'emmenait toujours, mais elle lui ordonnait de rester près d'elle. Sophie, qui aurait voulu courir à droite et à gauche, lui demanda un jour «
Maman, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille voir les maçons sans vous ? Et quand vous y allez, pourquoi voulez-vous que je reste toujours auprès de vous ?»«
Parce que les maçons lancent des pierres, des briques qui pourraient t'attraper, et puis parce qu'il y a du sable, de la chaux qui pourrait te faire glisser ou te faire mal. »
« Oh, maman, d'abord j'y ferai bien attention, et puis le sable et la chaux ne peuvent pas faire de mal. »
« Tu crois cela, parce que tu es une petite fille, mais moi qui suis grande, je sais que la chaux brûle. »«
Mais maman !»«
Voyons, ne raisonne pas tant et tais-toi. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire mal ou non. »«
Je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. »
Sophie baissa la tête et ne dit plus rien, mais elle prit un air maussade et se dit tout bas
« J'irai tout de même, cela m'amuse et j'irai. »
Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de désobéir. Une heure après, le jardinier vint chercher Madame de Réan pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Sophie resta donc seule. Elle regarda de tous côtés si la bonne ou la femme de chambre ne pouvait la voir et, se sentant bien seule, elle courut à la porte, l'ouvrit et alla dans la cour. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie qui s'amusait à les regarder, à tout voir, tout examiner. Elle se trouva près d'un grand bassin à chaux, tout plein, blanc et uni comme de la crème.
« Comme cette chaux est blanche et jolie !» se dit-elle.
« Je ne l'avais jamais si bien vue.
Maman ne m'en laisse jamais approcher. Comme c'est uni ! Ce doit être doux et agréable sous les pieds. Je vais traverser tout le bassin en glissant dessus comme sur la glace. »
Et Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre. Mais son pied enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied et elle enfonce jusqu'à mi-jambe. Elle crie. Un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit
« Enlevez vite vos souliers et vos bas, mamselle. Ils sont déjà tout brûlés. Si vous les gardez, la chaux va vous brûler les jambes. »
Sophie regarde ses jambes. Malgré la chaux qui tenait encore, elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort, et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlait les jambes. La bonne n'était pas loin, heureusement. Elle accourt, voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier, la prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était rapportée dans sa chambre, Madame de Réan rentrait pour payer le marchand de fleurs.
« Qu'y a-t-il donc ?» demanda Madame de Réan avec inquiétude.
« T'es-tu fait mal ? Pourquoi es-tu nu-pied ?»
Sophie, honteuse, ne répondait pas. La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé et comment Sophie avait manqué d'avoir les jambes brûlées par la chaux.
« Si je ne m'étais pas trouvée tout près de la cour et si je n'étais pas arrivée juste à temps, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier. Que madame voit comme il est brûlé par la chaux. Il est plein de trous. »
Madame de Réan vit en effet que le tablier de la bonne était perdu. Se tournant vers Sophie, elle lui dit
« Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance, mais le bon Dieu vous a déjà puni par la frayeur que vous avez eue.
Vous n'aurez donc d'autre punition que de me donner pour racheter un tablier neuf à votre bonne la pièce de 5 francs que vous avez dans votre bourse et que vous gardiez pour vous amuser à la fête du village. »
Sophie eut beau pleurer, demander grâce pour sa pièce de 5 francs, la maman la lui prit. Sophie se dit, tout en pleurant, qu'une autre fois elle écouterait sa maman et n'irait plus où elle ne devait pas aller.
Maman prétend que je ne suis pas sage, parce qu'en montant sur un âne obstiné, j'ai fait des trous à mon joli corsage, j'ai fait des trous sur le bout de mon nez. C'est moi qui suis Sophie, la petite fille modèle. J'ai beaucoup plus d'esprit que ma cousine Adèle. Ma tante a dit que je n'étais pas sage, parce qu'en donnant à manger à Mina, c'est le serin que j'ai sorti de la cage, c'est le serin que Minet a mangé. C'est moi qui suis Sophie, la petite fille modèle. J'ai